Voici d'abord les deux textes liturgiques de ce 18e dimanche après la Pentecôte. L'épître tirée de saint Paul aux Corinthiens, mes frères, je rends pour vous à mon Dieu des actions de grâce continuelles à cause de la grâce de Dieu qui vous a été donnée dans le Christ Jésus, en qui vous êtes devenu riche de toutes sortes de biens. De tous les dons de la parole et de la science, le témoignage du Christ ayant été solidement affermi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ, qui lui aussi vous affermira jusqu'à la fin, pour que vous soyez répréhensibles au jour de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. On se lève pour l'Évangile. Suite du Saint-Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, étant monté dans une barque, repassa le lac et vint dans sa ville. On lui présenta un paralytique couché sur un lit, et Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Ayez confiance, mon fils, vos péchés vous sont remis. » Et voici que quelques-uns des scribes dirent en eux-mêmes, « Cet homme blasphème. » Et Jésus, ayant vu leur pensée, dit, « Pourquoi pensez-vous le mal dans vos cœurs? Qu'y a-t-il de plus aisé de dire, « Vos péchés vous sont remis » ou de dire, « Levez-vous et marchez ?» Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de remettre les péchés, levez-vous, dit-il alors au paralytique, prenez votre lit et allez dans votre maison. Il se leva et s'en alla dans sa maison. Les foules voyant cela furent remplies de crainte et glorifièrent Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Veuillez vous asseoir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers frères, mes bien chers amis, aujourd'hui nous voyons un beau miracle de notre Seigneur, retransmis par saint Matthieu. Notre Seigneur va guérir un paralytique. Et selon les habitudes de l'Église, il faut encore une fois passer par les Pères. C'est le Père de l'Église qui nous donne le sens caché de l'Écriture. C'est eux qui ont la clé de l'Écriture sainte, il faut le dire et le redire. N'oubliez pas que dans son serment antimoderniste, le prêtre a promis, avant son ordination, de toujours interpréter l'Écriture sainte selon l'essence que l'Église lui a toujours donné. Et ce sens de l'Église, c'est donné par les pères de l'Église. Donc les pères expliquent toujours la même chose, c'est-à-dire que la paralysie représente une autre paralysie. Toutes les maladies physiques que les Juifs pouvaient voir, pouvaient toucher, il y avait beaucoup de malades à cette époque en Palestine, et donc ces paralysies physiques, ces maladies physiques, ont leur correspondance dans l'âme, parce qu'il y a un rapport entre le corps et l'âme. Donc la paralysie physique est le symbole d'une paralysie spirituelle. Bon. Qu'est-ce que c'est qu'un paralytique sur le plan spirituel? Un paralytique, c'est qu'il est un prisonnier. Un prisonnier de qui? Le prisonnier, c'est celui qui est dans une prison, qui a donc perdu sa liberté. Non seulement il est en prison, mais en plus de ça, il est enchaîné. Donc on enchaînait les prisonniers avec des lourdes chaînes de fer. On voit très bien dans les Actes des Apôtres, avec les emprisonnements de saint Paul et saint Pierre. Et donc, cette paralysie représente la perte de liberté. Pourquoi j'ai perdu ma liberté? Parce que j'ai donné ma volonté à un chef d'esclave. Et ce chef d'esclave, c'est le démon. Donc, celui qui est paralysé, c'est le pécheur qui vit dans le péché mortel. Et donc, il est comme paralysé, il est plus libre de ses mouvements. Pourquoi? Parce qu'il est enchaîné. Alors, notre Seigneur Jésus-Christ va avoir pitié de ce prisonnier. Il va littéralement parlementer avec le démon. Il s'agit de faire sortir, de rendre la liberté à ce prisonnier. Donc il faut d'abord lui arracher ses chaînes. Ensuite, il faut le sortir de prison pour le guérir complètement. Et donc, pour sortir de prison, il faut en quelque sorte payer le gardien de prison, pour que ce dernier laisse son prisonnier sortir de la prison. Sinon, il ne voudra pas le laisser sortir. Et comme le prisonnier a donné sa volonté à son propre gardien, le péché mortel, d'un certain côté, c'est une certaine forme de suicide spirituel. On donne au démon le pouvoir sur notre âme. Donc c'est littéralement un suicide. Et donc Dieu va devoir payer une grosse somme d'argent pour que le démon laisse sortir sa victime. Et comment est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ a-t-il payé cette somme importante pour libérer les victimes du démon? Et bien, il l'a fait par sa passion. Par sa passion, notre Seigneur Jésus-Christ paye la sortie de prison de celui qui est enchaîné par le démon. Et comme le péché a un certain côté, une certaine forme d'infinité, puisque le péché, c'est quoi? C'est le mépris de l'être infini qui est Dieu. Donc seul un être infini peut payer cette fortune. Et l'être infini, c'est Dieu. Donc Dieu envoie son propre Fils, qui est infini en tant que Dieu, pour celui qui nous garde en prison, le démon, pour qu'il détache les chaînes et nous laisse sortir. Et donc, qu'est-ce que va faire le bon Dieu? Il va d'abord nous obliger à nous lever, première étape. Lever, c'est quoi? Pour se lever en prison, il faut déjà avoir détaché les chaînes. Celui qui est enchaîné au mur, il ne peut même pas se lever. Donc, il va permettre au condamné de se lever. Eh bien, se lever, ça veut dire quoi? Ça veut dire, première étape, se détacher des occasions prochaines volontaires de péché grave. Si je garde une occasion prochaine volontaire de péché grave, je suis enchaîné au mur. Je ne peux rien faire. Je ne peux même pas me lever. Donc Dieu va donner des grâces actuelles pour permettre à ces chaînes d'être détachées. Parce que si je garde une occasion prochaine volontaire de péché grave, je joue avec le feu. Je reste en péché, en état de présomption par rapport au bon Dieu. C'est évident que je ne peux pas être pardonné. Donc première étape, c'est arrêter. Couper les occasions prochaines volontaires de péché grave. Vous savez que c'est tellement important que si un prêtre donne une absolution à quelqu'un qui garde une occasion prochaine volontaire de péché grave, l'absolution est absolument invalide. Même si le prêtre ignore que cette personne a gardé une occasion prochaine volontaire de péché grave. Et l'Église enseigne même, bah, plus loin que ça, en disant que si un prêtre donne une absolution à quelqu'un en sachant pertinemment que cette personne qui se confesse à lui garde dans sa vie tous les jours une occasion prochaine volontaire de péché grave. Non seulement l'absolution est invalide, mais c'est le prêtre qui commet une faute grave. Un prêtre qui donne une occasion, je veux dire, excusez-moi, un prêtre qui donne l'absolution à une personne qui garde dans sa vie tous les jours une occasion prochaine volontaire de péché grave, commet une faute grave parce qu'il est responsable des absolutions qu'il va donner. La deuxième étape, une fois que la première étape a été franchie, qui enlève la première chaîne, si vous voulez, il faut encore se lever ne suffit pas, pardon, il faut qu'il se lève et qu'il marche, dit l'Évangile. Marcher vers quoi? Vers qui? Marcher vers le confessionnal, c'est la deuxième étape. Avant de marcher vers le confessionnal, il faut d'abord avoir coupé les occasions prochaines volontaires de péché mortel, sinon l'absolution sera invalide. Donc première étape, se lever. On a des occasions prochaines volontaires de péché grave. Deuxième étape, on va se confesser, on se met à genoux devant le représentant de notre Seigneur Jésus-Christ, le représentant de sa miséricorde, le prêtre, et on dit, pardonnez-moi mon Père parce que j'ai péché. Troisième étape, Dieu peut pardonner. Donc, essayons de développer un petit peu ce que représente cette paralysie. Il faut bien comprendre ces choses-là telles qu'elles sont expliqué par les pères. Donc, la paralysie, si vous voulez, que le démon provoque par sa puissance, si vous voulez, démoniaque, puissance angélique, attention, c'est un ange, hein, par sa puissance angélique, le démon va essayer de paralyser tous les systèmes de protection d'individus sur le plan surnaturel. Pour ils sont en quelque sorte, on peut comparer, les pères d'ailleurs l'ont fait, souvent comparer le travail du démon à une araignée. Une embuscade sur sa toile. Quand une petite mouche vient se prendre dans la toile ou un insecte vient se prendre dans la toile, qu'est-ce que fait l'araignée? Elle vient immédiatement, elle commence à mettre un premier fil de soie autour de la mouche pour l'empêcher de se débattre. Et puis elle attend quelques secondes et elle revient mettre un deuxième fil de soie. Et puis elle va finalement entourer complètement cet insecte de ses fils de soie pour que l'insecte finalement puisse se libérer du tout. Le démon fait la même chose. Donc, comment le démon va-t-il travailler? Il a d'abord provoqué la paralysie de la foi, la grande vertu théologale de foi qui nous permet de croire. Et comment le démon va-t-il paralyser la vertu de foi? Le démon va paralyser la vertu de foi en nous faisant oublier notre catéchisme, en nous poussant à ne plus étudier notre catéchisme. Si les catholiques, la plupart des catholiques des années 60 ont perdu la foi, une des grandes raisons, c'est parce qu'ils n'étudiaient plus. Si les prêtres des années 60 ont aussi également, leur immense majorité, perdu la foi, c'est pour la même raison, c'est parce qu'ils n'étudiaient plus. Donc il importe, et ça c'est capital à comprendre, il importe à comprendre que la première chose à faire, c'est d'abord l'étude. L'étude de son catéchisme. Faut pas croire ce qu'on entend régulièrement, j'ai entendu plusieurs fois des fidèles dire ça, ah mais le catéchisme c'est pour les enfants. Mais attendez, les enfants ont besoin de nourriture d'enfants, les adultes ont besoin d'une nourriture d'adultes. Le catéchisme est également une nourriture spirituelle pour les adultes. Ayez tous dans votre maison un catéchisme pour adultes, par exemple celui de Saint-Bilice ou celui de Corcile-de-Trente, tous les deux, et étudiez-le pour que justement notre foi ne dépérisse pas. Parce qu'une fois que le démon de la paralysie spirituelle a obtenu la paralysie de la foi, eh bien la foi n'est plus là pour protéger l'édifice spirituel. Puis le démon va attaquer l'espérance, évidemment. Comment attaque-t-il l'espérance? Quel est le but de l'espérance? Le but de l'espérance, c'est la prière. Foi pour quoi? Espérance pour prier. Donc, le démon va nous provoquer chez nous une paralysie de l'espérance en nous faisant diminuer notre prière ou en la supprimant complètement. Quelqu'un qui prie plus, qui fait plus sa prière du matin, qui fait plus sa prière du soir, qui dit plus son chapelet tous les jours, qui prie pas un minimum dans la journée, c'est comme quelqu'un qui arrête de se nourrir. Quelqu'un qui arrête de se nourrir va devenir de plus en plus faible et va finir par mourir. C'est la même chose sur le plan spirituel. Donc la paralysie de l'espérance va entraîner une perte de l'esprit de prière. Et beaucoup de gens n'arrivent plus à s'en tirer aujourd'hui parce qu'ils ont arrêté de prier. On entend souvent, c'était un argument qu'on entend très souvent. Monsieur l'abbé, je ne peux plus prier parce que je suis dans le péché mortel. Ben justement, parce qu'on est dans le péché mortel, on a besoin de prier. Ah, mais seuls ceux qui sont en état de grâce peuvent prier. Vous avez vu ça, vous, dans le catéchisme? Ce n'est pas dans le catéchisme. Les gens, tout le monde doit prier. Ceux qui sont en état de grâce, et aussi et surtout ceux qui sont dans le péché mortel. Pourquoi? Parce que ceux qui sont dans le péché mortel, je dirais, ont encore plus besoin de prier que ceux qui sont en état de grâce pour sortir de cette paralysie. Et enfin, la troisième paralysie que le bon Dieu va provoquer, c'est la paralysie. La paralysie au niveau de la charité. Au niveau de la charité. Et comment va-t-il provoquer cette paralysie au niveau de la charité? Donc d'abord paralysie de la foi, paralysie de l'espérance, paralysie de la charité, en coupant l'âme des sacrements. Surtout le sacrement de pénitence, le sacrement de la Sainte Eucharistie. Encore une fois, c'est les mêmes arguments qu'on entend très souvent. Monsieur l'abbé, je suis dans le péché jusqu'au cou, je peux même plus aller me confesser. Mais c'est fait pourquoi les confessions? Notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu pour les bien portants, il est venu pour les mourants, pour les malheurs, pour les malades, pour ceux qui sont justement dans les difficultés spirituelles. Donc la confession est surtout faite pour ceux qui sont dans le péché. Donc raison de plus, parce que je suis dans le péché, pour m'approcher du sacrement de pénitence. Et une fois que j'ai nettoyé mon âme par le sacrement de pénitence, alors je peux m'approcher du sacrement de la Sainte Eucharistie. Donc comment augmente-t-on la charité? On retrouve la charité par la confession, si on l'a perdue par le péché mortel. Mais on augmente la charité qui nous a été donnée par l'absolution sacerdotale, reçue avec toutes les bonnes dispositions. On augmente cette charité par la vertu, par l'usage du sacrement de la Sainte Eucharistie. Et à ce moment-là, on va revivifier l'espérance, la foi, l'espérance et la charité. Puis quand on creuse un peu, on se rend compte, c'est très, très clair chez les pères de l'Église, ils expliquent que cette paralysie va après se répandre dans le corps spirituel tout entier. D'abord avoir paralysie des yeux. On a des yeux de notre âme. Donc il y a des yeux du corps pour nous permettre de nous diriger. Il y a des yeux de l'âme qui permettent aussi à l'âme de se diriger vers le bon Dieu. En quoi consistent ces yeux de l'âme? Les yeux de l'âme vont nous faire voir deux choses. La grandeur, la beauté, l'extraordinaire gloire de Dieu pour nous attirer vers Dieu. Et en même temps, ces yeux de l'âme vont nous faire voir la laideur, la saleté, le caractère négatif, si vous voulez, du péché. Et donc, le démon va faire de nous, entraîner dans notre âme une myopie spirituelle. On va devenir comme une taupe, on ne voit plus rien. Donc, on n'est plus capable de voir la grandeur de Dieu, on n'est plus attiré par Dieu. Et d'autre part, le démon va, en nous mettant cette espèce de cécité spirituelle sur l'âme, il va nous empêcher de voir la laideur et la malice du péché. C'est ce que fait le démon. Il est très malin parce que c'est un ange. comprend les choses par intuition bien plus vite que nous. Donc il va, si vous voulez, peindre le péché avec une espèce de belle couleur dorée, mettre un peu de parfum sur le péché pour que le péché ne semble pas aussi grave qu'il n'est en réalité. Donc le démon va cacher le péché sous une espèce de beauté extérieure pour nous faire oublier la malice et la laideur du péché. Et c'est comme ça qu'il nous roule dans la farine. Et il nous roule dans la farine avec un deuxième argument qu'on entend tout le temps, l'argument des imbéciles, mais qui marche très bien. Tout le monde le fait. Voilà. Tout le monde le fait, donc c'est pas un péché, mais c'est tout le monde le fait. Comme si mon Dieu était un démocrate. Mon Dieu n'est pas démocrate, la vérité n'a rien à voir avec le nombre. Donc, deuxième paralysie, après la paralysie des yeux, la paralysie des oreilles, de l'âme. On a des oreilles spirituelles. De même quand il y a des oreilles dans notre corps pour entendre les différents sons qui frappent le tympan, de même il y a des oreilles spirituelles. À quoi servent les oreilles spirituelles de notre âme? L'oreille spirituelle, elle nous permet d'entendre la gloire du bon Dieu que nous devons chanter par la prière, par l'adoration. Les oreilles de l'âme ont aussi un rôle très important pour nous faire entendre les reproches de notre conscience. Parce qu'on tombe dans le péché, la conscience au travail, évidemment, le bon ange au travail. Et pour, il nous parle, mais il faut encore entendre. Si je me bouche les oreilles de telle façon que je ne puis plus entendre les reproches spirituels que me fait mon ange, ou un prêtre que je puisse connaître, un bon ami qui m'aide un petit peu à me remettre sur les pieds sur le plan spirituel, si je me bouche les oreilles de mon âme, je ne peux plus rien entendre. Et les oreilles de l'âme aussi doivent être fermées, ouvertes pour entendre les bonnes choses, entendre la gloire du bon Dieu, entendre les reproches de ma conscience, mais doivent être fermées aux susurrations du démon qui va murmurer à mon âme, t'en fais pas, Dieu est bon, et depuis Vatican II, le péché n'existe plus. Donc il faut d'abord, en quelque sorte, ouvrir les yeux de notre âme, déboucher, enlever le cérumen spirituel, si vous voyez, nos oreilles, pour que nous puissions, soyons capables d'entendre les bons conseils que le bon Dieu nous donne. Troisième paralysie, aussi extrêmement importante, la paralysie de la langue. Ça est extrêmement grave. La langue nous a été donnée par le bon Dieu pour le louer. C'est Saint Jacques qui, dans son épître, nous fait reconnaître, nous fait comprendre que la langue, c'est comme un gouvernail de bateau. C'est un petit gouvernail, se dirige sous le bateau. Mais une langue, ça peut devenir un feu dévorant, dit-il. Donc le bon Dieu nous a donné une langue pour le louer. Mais le démon va me paralyser la langue pour que je ne puisse plus l'utiliser pour louer notre Seigneur Jésus-Christ. Il va enlever cette paralysie de la langue pour qu'au lieu de louer notre Seigneur Jésus-Christ, je loue le monde, ses pompes et ses œuvres. Vous voyez, c'est toutes ces choses-là qu'il faut impérativement comprendre. On peut aller beaucoup plus loin dans toutes ces choses-là. Vous voyez, donc celui qui est aussi paralysé de la langue, disent les pères, c'est également celui qui n'ose plus, par honte, affirmer ses péchés au confessionnal. Il va cacher ses péchés d'une façon ou d'une autre parce qu'il a peur de les accuser. Vous voyez, donc la confession et la Sainte Eucharistie vont nous aider justement à couper toutes ces séquelles de paralysie pour protéger notre édifice spirituel. Il y a encore d'autres choses qu'on pourrait dire. Je voudrais également dire quelques mots sur une autre paralysie. J'ai parlé de la paralysie des vertus théologales. Mais il faut aussi parler de la paralysie des vertus cardinales. C'est le troisième point de ce serment qui est aussi important, la paralysie des vertus cardinales. Donc le paralytique, c'est aussi celui qui commence à avoir, par exemple, une paralysie de la vertu de prudence. La vertu de prudence qui est la reine des vertus morales, des vertus cardinales. Donc la vertu prudence qui nous est donnée pour éclairer notre intelligence. Et comment est-ce que le démon va paralyser la prudence? Eh bien, le démon va paralyser la prudence par la blessure d'ignorance. Et c'est parce que je suis ignorant que je deviens de plus en plus imprudent. Quand je suis en voiture et j'arrive à un croisant, je ne sais pas si je vais à droite ou à gauche, je commence par ralentir, m'arrêter, puis regarder ma carte pour savoir où je dois aller. C'est la même chose avec sur le plan spirituel. Donc le démon va paralyser la prudence. Il va également paralyser la justice. Comment va-t-il paralyser la vertu de justice dans mon âme qui me fait rendre à chacun ce qui lui est dû, à Dieu ce qui est à Dieu? Bien, le démon va paralyser la vertu de justice par la blessure de malice. Il va me pousser au mensonge, il va me pousser au vol, qui est une conséquence du mensonge, pour me couper de plus en plus du bon Dieu. Puis il va paralyser l'irascible. L'irascible, c'est un pouvoir que j'ai, une puissance de mon âme pour lutter contre les obstacles. C'est parce qu'il manque pas les temps qui coule. Eh bien, comment est-ce que le démon va paralyser l'irascible? Le démon va paralyser l'irascible par la blessure de faiblesse. La malice de la volonté, la faiblesse dans l'irascible, et va nous faire tomber surtout dans l'oisiveté, dans la paresse spirituelle qu'on appelle l'assédie, pour nous dégoûter de la prière, dégoûter de l'usage des sacrements. Et enfin, le démon qui ne va pas s'arrêter en si bon chemin, il va paralyser également le concupiscible. Concupiscible, c'est une puissance de notre âme pour désirer les choses qui nous entourent. Mais le démon va travailler là-dessus par une paralysie de la tempérance pour nous pousser à désirer les choses qu'on ne doit pas désirer, ou désirer les bonnes choses parfois, mais les désirer de façon déraisonnable. Et il va nous faire tomber dans la concupiscence. Soit la concupiscence de la chair, en ôtant en nous la vertu de chasteté, en paralysant la vertu de chasteté, soit la concupiscence des yeux, en paralysant en nous la vertu de pauvreté, soit évidemment l'orgueil, en détruisant en nous, en paralysant en nous la vertu d'obéissance. Et comment on voit très bien, comment le démon, si vous essaie d'attaquer tous les points de la cuirasse de protection des armes offensives et défensives que le bon Dieu nous a données, et qui va attaquer tout. Les vertus théologales, les vertus cardinales, les vertus morales, et puis les différents sens de l'âme, pour que l'âme soit complètement décontenancée, paralysée devant le bon Dieu, et puis tombe un peu comme une araignée, une mouche, un moucheron qui va tomber dans la toile d'araignée et qui va se faire dévorer tout cru par l'araignée qui est en embuscade. Alors demandons, mes bien chers frères, demandons à la Très Sainte Vierge Marie de nous protéger, elle connaît toutes ces ruses du démon. Elle est la reine du ciel. Étant la reine du ciel, elle a le pied droit, elle a le pied sur la tête du démon, c'est son rôle. Le rôle de la Sainte Vierge, c'est d'écraser le démon. Hein. Ipsa conterat, n'oubliez pas la promesse qu'a fait Dieu au démon. Ipsa conterat, elle t'écrasera la tête. Donc n'oublions pas ces choses-là. Alors supplions la Très Sainte Vierge Marie de nous aider de ses conseils spirituels. Voilà pourquoi il faut prier la Sainte Vierge. Une âme qui prie la Sainte Vierge est une âme qui est forte comme une armée en bataille, parce que la Sainte Vierge Marie est un chef de guerre. Donc si je prie la Très Sainte Vierge Marie, je garde précieusement mon chapelet tous les jours, à ce moment-là, le démon perd énormément de sa force. Quand les gens viennent me voir et me disent, Monsieur l'abbé, ça fait des années que je ne me suis pas confessé, j'arrive plus à m'en remettre, qu'est-ce que je dois commencer par faire? Je donne toujours la même chose, commencez par le chapelet. Commencez par reprendre votre chapelet. La mitraillette à 50 coups, à 150 coups contre le démon. Commencez par reprendre le chapelet. Et dès que vous avez repris le chapelet, vous serez beaucoup plus fort, évidemment, pour lutter contre toute forme de tentation. Alors demandons à notre Sainte Vierge Marie de nous aider à ne jamais, jamais nous décourager. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.